Voilà, et bien écoutez, sans plus tarder, on va enchaîner. On va pas s'enchaîner, mais on va enchaîner. Et donc ce matin, on a posé un peu le fondement de cette nouvelle sacrificature, qui est une sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek. On l'aura bien compris. Et là, pour commencer cette deuxième session, ou troisième, je voudrais vous donner les quelques points qui marquent les différences par rapport à cette nouvelle sacrificature et l'ancienne. On a vu déjà le premier point, que je ne vais pas rappeler en détail, mais c'est bien sûr une sacrificature universelle. À la différence de la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, qui était réservée à une tribu et même à une famille dans la tribu, pour ce qui concernait la sacrificature et les souverains sacrificateurs, c'était la famille d'Aaron. La sacrificature de la Nouvelle Alliance est universelle, nous sommes tous sacrificateurs, on l'a vu ce matin. Ça, c'est la grande différence. Deuxième différence que l'on peut noter, on la trouve dans Hébreux au chapitre 7, et à partir du verset 23 et 24. C'est la notion d'une sacrificature permanente, éternelle. Les mots sont superposables. Sacrificature éternelle, sacrificature permanente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc plusieurs choses dans ce texte et des choses intéressantes concernant cette nouvelle sacrificature. Nous avons un souverain sacrificateur qui est permanent, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de déléguer à d'autres son ministère parce que lui, il doit s'arrêter à cause de la mort. C'était le cas d'Aaron et de ses fils. Mais lui, de par sa résurrection, il vit éternellement et donc il est souverain sacrificateur pour toujours. Mais ça nous propulse dans une dimension éternelle de la sacrificature ou une dimension permanente. Et ça, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on fait beaucoup de choses dans cette dimension de la sacrificature éternelle sans savoir que ça a un rapport avec la sacrificature éternelle. Je vais vous donner deux, trois exemples et qui sont d'ailleurs des sujets polémiques dans la théologie évangélique. Je m'explique. On voit que Jésus intercède pour nous. C'est ce que vient de nous dire le texte, de manière permanente. C'est que nous avons dans les cieux quelqu'un qui est sans cesse en intercession. Alors bien sûr, c'est une intercession qui est fondée sur son sang qu'il a versé et qui est vivant, qui parle mieux que celui d'Abel. Devant le trône de Dieu, le sang de Christ est efficace et cette intercession demeure continuellement. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, en tant que sacrificateur de cette nouvelle alliance, nous avons le privilège de pouvoir nous approcher du trône de Dieu, de pouvoir entrer dans le lieu très saint et d'arriver là où Jésus est en intercession permanente. Alors là, c'est des notions qui sont un peu difficiles à comprendre avec notre intelligence humaine limitée. Mais le tabernacle dont il est question, c'est bien le tabernacle céleste. Donc lorsqu'on dit qu'on s'avance et qu'on entre dans le lieu très saint, on est dans une dimension céleste. On entre dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et cette présence de Dieu dans le lieu très saint, qui je vous rappelle n'est pas un lieu géographique, mais c'est une autre dimension, la dimension spirituelle, elle est pourtant extrêmement réelle. D'accord avec cela, la réalité de la présence de Dieu est plus réelle que la réalité matérielle dans laquelle nous vivons, puisque c'est lui qui a créé la réalité matérielle. Donc la réalité dans laquelle il se trouve est encore plus réelle que la nôtre. C'est pour les Français cartésiens, ça commence à cartonner un peu là. Et ce réel de la présence de Dieu est hors du temps, puisque Dieu est éternel. C'est lui qui a créé le temps et c'est lui qui nous a placés dans la sphère temporelle. Vous savez que notre humanité évolue dans la sphère spatio-temporelle et que c'est là où Dieu nous a placés. Mais lui, il se trouve hors du temps, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et donc c'est des notions qui nous dépassent, c'est clair. Mais lorsqu'on se présente devant lui et qu'on entre dans cette sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, on entre quelque part dans une dimension d'éternité permanente. C'est pour ça que le temps présent est le temps essentiel de la vie chrétienne. J'ai une petite parenthèse, mais c'est important. Vivre dans le passé, ça apporte pas grand-chose. Vivre que dans le futur, ça apporte rien non plus. Même si ces deux dimensions-là sont importantes, puisque dans le passé, Dieu a agi et on se souvient de ce qu'il a fait. Et dans le futur, il y a des choses que Dieu fera et on les attend avec espérance. Mais la réalité de notre foi est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce n'est pas valable que pour le salut, là. C'est valable pour la vie quotidienne. Parce que l'aujourd'hui de notre temps présent, c'est le seul moyen d'être en communication avec l'éternité de Dieu. Est-ce que je vous ai tous perdus ? C'est bon ? C'est dans l'instant présent que tu entres en communion avec Dieu. Et dans l'instant présent, si tu entres en communion avec Dieu, tu entres dans sa dimension à lui, qui est une dimension d'éternité et de présent permanent. Et là où, en fin de compte, je fais le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, dans l'intercession, dans la prière, nous pouvons, dans ce nouveau sacerdoce, agir sur des notions temporelles qui sont passées, présentes ou futures. Vous avez certainement entendu parler, et vous le pratiquez aussi, de toutes les dimensions transgénérationnelles de nos vies, et les malédictions générationnelles, toutes ces choses qui sont dans notre histoire et dans l'histoire de la vie de chaque être humain, vont pouvoir être touchées par Dieu, parce que Dieu, lui, se situe hors du temps, et peut intervenir dans le passé, et peut même changer le futur. Mais ça, c'est Dieu qui peut le faire. Mais comme il le fait en réponse à notre prière et notre intercession, du coup, lorsque nous sommes dans cette sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, et que nous prions pour des choses du passé, Dieu peut intervenir parce que nous sommes avec lui dans une dimension permanente de sacrificature. Ça va, je ne vous ai pas perdu ? Donc c'est valable pour ça, c'est valable aussi pour tous les temps où nous commençons à avoir des temps de repentance et des temps de prière pour nos nations au niveau de leur histoire. Qu'on commence à se repentir pour des choses passées, on le fait en tant que sacrificateur. Le péché de nos pères, le péché de nos nations, etc. On le fait en tant que sacrificateur devant Dieu. Ce n'est pas nous qui avons péché, c'est nos pères. Mais devant Dieu, nous et nos pères, c'est un peu la même chose. Puisque le Seigneur, lui, est dans une éternité permanente et il voit les liens générationnels, il voit les conséquences du péché sur les nations et donc nous avons une autorité spirituelle dans l'intercession lorsque nous présentons devant Dieu parce que nous sortons de la sphère temporelle. Bien sûr, je ne dis pas qu'on sort de notre corps, bien que ça puisse arriver à certains, mais c'est une expérience un peu étrange, mais nous sortons de cette réalité temporelle pour influencer par notre intercession le passé et voir le futur. Vous avez sûrement lu le livre de Frère André, « Quand Dieu changea ses plans », c'est ça le titre ? Quelque chose comme ça ? Ça vous dit rien ? Émilie n'est pas là. Et Dieu changea ses plans, oui, c'est ça. Et c'est un livre qui parle justement du fait qu'on peut faire changer l'avenir par rapport aux décisions de Dieu. Comment ça se fait qu'on peut faire ça ? Parce que justement, on entre dans une dimension de collaboration avec Dieu au niveau de l'éternité. Ce n'est pas que Dieu se laisse influencer par nous, mais c'est que nous collaborons avec Dieu à l'influence de l'avenir. Nous ne sommes pas des croyants Inch'Allah, qui pensent que tout est déterminé d'avance, c'est le déterminisme, et que de toutes les façons, que tu pries ou que tu ne pries pas, de toute façon, rien ne changera, puisque tout est déterminé à l'avance. Vous avez peut-être entendu parler de ce genre de doctrine qui existe bien sûr dans d'autres religions, mais qui peuvent aussi influencer notre foi chrétienne. Et du coup, on devient des chrétiens amorphes qui ne prient quasiment plus, parce que de toute façon, que ta volonté soit faite. Mais ce n'est pas ça la prière. La prière d'intercession, c'est savoir que nous avons une autorité spirituelle lorsque nous entrons dans la présence de Dieu et que nous entrons devant le trône de Dieu pour faire changer les destinées des vies des personnes et des nations entières. Et notre intercession peut faire changer le cours de l'histoire. J'en reparlerai tout à l'heure dans la soirée. Mais nous avons une réelle autorité dans la prière à cause de cela. Troisième grande différence entre la sacrificature selon Aaron et la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, c'est que la sacrificature selon l'ordre d'Aaron se basait sur quelque chose de légal, sur la loi de Dieu. C'était une ordonnance charnelle, nous dit l'Épître aux Hébreux, on va lire le texte, selon la loi. Mais la sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, se base sur la vie impérissable de Christ. Elle ne se base pas sur une loi, sur un texte, sur des ordonnances, elle se base sur la vie de Christ. Donc c'est une sacrificature qui nous amène dans un changement de loi. Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. On va lire le texte, Hébreux 7, versets 11 et 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Intéressant. Intéressant. Le sacerdoce selon l'ordre de selon l'ordre d'Aaron se basait sur la loi de Moïse. D'accord ? Et la loi de Moïse détermine l'ordre de la sacrificature. Donc tout ce que les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron devaient pratiquer était écrit dans la loi de Moïse. Ils n'avaient juste qu'à suivre les ordonnances de la loi de Moïse et les mettre en action. Et les ordonnances lévitiques, vous avez remarqué, c'est très précis, c'est très concret et il y en a beaucoup. La sacrificature selon l'ordre de Melchisédek se base sur la vie impérissable de Christ. Et donc, on est dans une autre dimension de loi. Vous savez que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Il a accompli la loi, et une fois que cette loi a été accomplie, alors il a pu s'offrir en sacrifice, parce que son sacrifice a été agréé par Dieu, Jésus étant le seul homme ayant obéi parfaitement à la loi. Mais maintenant, dans sa résurrection, il nous intègre avec lui. Et je sais que vous avez beaucoup parlé de cela ici, c'est la notion de la justice que nous recevons de Christ. Et cette justice que nous revêtons pour entrer dans la présence de Dieu, c'est la vie de Christ. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas parce qu'on est des gens très obéissants que Dieu nous a agréés en Christ. C'est parce que nous sommes dans la foi, en l'œuvre de Christ, et que nous avons reçu la vie même de Christ. Une vie impérissable, une vie incréée, la vie divine que nous avons reçue par la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de la loi ? Au niveau de la loi, eh bien, l'apôtre Paul nous en parle en Romains 8, on ne va pas lire les textes, c'est une chose que vous connaissez bien. La nouvelle loi, c'est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Il y a la loi du péché et de la mort, et il y a la loi de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie, c'est celle que nous avons reçue en termes de vie. Celui qui reçoit la vie de Christ et la puissance du Saint-Esprit va être conduit naturellement à obéir à Dieu. Quand je dis naturellement, c'est dans la notion de la nouvelle nature. C'est quelque chose qui est inscrit en lui. Vous savez, je vous fais un cours de base, là, en fin de compte. La nouvelle alliance, c'est la loi de Dieu écrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est plus une loi extérieure à laquelle nous devons nous soumettre en lisant un texte et en essayant d'y obéir. C'est une loi intérieure en termes de vie dans une relation avec le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, nous ne sommes plus soumis à la loi de Moïse. Nous sommes soumis à la loi de Christ en nous, de l'esprit de vie en nous, qui ne contredit jamais la loi de Moïse, on est bien d'accord. Mais c'est une relation avec Dieu et non plus une relation avec un texte. Quatrième différence entre ces deux sacrificatures, la sacrificature selon Aaron est basée sur la malédiction de la loi et la condamnation du péché. Il fallait qu'ils offrent sans cesse des sacrifices de culpabilité et d'expiation à cause du péché. Et c'est une malédiction parce qu'il fallait toujours recommencer perpétuellement la même démarche. La sacrificature selon l'ordre de Melchisédek est une sacrificature basée sur la grâce de Dieu, je ne vous apprends rien, et du coup c'est une sacrificature de louange, ou plus précisément d'action de grâce. On n'est pas en train d'essayer de plaire à Dieu et de, par nos œuvres et de nous repentir sans cesse de nos péchés, même si la repentance a toujours lieu. Nous sommes sur une base d'action de grâce sur l'œuvre de Christ. Et la louange va prendre d'un seul coup toute sa place dans cette nouvelle sacrificature parce que nous avons la liberté d'entrer dans la présence de Dieu déjà pour lui dire merci. L'action de grâce, on le verra tout à l'heure en deuxième partie, est fondamentale dans notre relation avec Dieu et même dans notre style de vie. La reconnaissance, c'est le style de vie des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est pour ça que nous les Français, nous avons besoin de nous battre avec notre culture, de pas content, de jamais satisfait et de non-pardon. Je ferme la parenthèse. Mais l'action de grâce, l'acte de reconnaissance est fondamental parce que c'est ce qui nous entraîne dans une dimension de foi et d'autorité. Nous sommes là fondés sur ce que Dieu a fait pour nous en Christ et nous sommes dans l'action de grâce. Hébreux 7, versets 13 à 14, c'est donc au même endroit que tout à l'heure, mais on continue le texte. En effet, celui qui dit ces choses, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Un petit détail comme ça, mais c'est le mot Juda, vous le savez, c'est, veut dire gloire à Dieu ou louange à Dieu. Et la tribu de Juda, c'est la tribu des rois. C'est de là dont on a sorti les rois. Donc, Dieu a dit, la tribu de Lévi sera la tribu des sacrificateurs pendant l'ancienne alliance. Mais je vais créer une nouvelle sacrificature qui va être basée sur deux dimensions qui se trouvent en Juda. La dimension royale et la dimension de la louange. Et la dimension de la louange nous propulse dans une dimension d'autorité. Le psaume 149, si je ne me trompe pas, nous parle de cette dimension d'autorité de la louange. On peut enchaîner des rois au travers de la louange par l'Esprit de Dieu, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui nous emmène dans la royauté sur une dimension relationnelle de louange et d'action de grâce qui est fantastique. On est un peuple qui se bat par la louange. C'est une vieille histoire, se battre avec la louange. Pour les années 80, on avait écrit des livres là-dessus, on en avait lu. Mais il y a quelque chose de fondamental, il y a quelque chose de fondamental. Celui qui loue l'Éternel est dans une position d'autorité. C'est pour ça que bâtir des autels de louange fait partie du combat spirituel. qu'est-ce qu'a fait David ? Je fais une petite digression, mais en tout cas qui est dans le sujet que j'aborde là, louange et autorité. David, il a construit un tabernacle, vous vous rappelez, une tente à Jérusalem, qui était différente de la tente de Moïse. Vous connaissez sûrement l'histoire, vous avez eu des enseignements là-dessus, on en parle beaucoup dans le cadre des maisons de prière. Mais qu'est-ce qu'il a instauré à Jérusalem dans cette nouvelle tente ? Il a instauré un culte permanent de louange et d'adoration. Les sacrifices, eux, avaient toujours lieu, mais ils avaient lieu dans la tente de Moïse, sur le mont Gabaon. Mais à Jérusalem, la nouvelle tente est un nouveau sacerdoce. Et quelque part, David est en train de préfigurer le sacerdoce de la nouvelle alliance. La tente de David, le tabernacle de David, préfigure quelque chose qui sera accompli pleinement dans l'Église, lorsque l'Église a compris sa vocation. C'est-à-dire qu'on peut s'approcher de Dieu dans l'intimité, puisque la tente de David, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de séparation, l'arche de l'Alliance a été placée dans cette tente, et les sacrificateurs sont là pour rendre grâce à Dieu, louer et adorer l'Éternel avec les instruments, la musique, etc. Donc toute la sacrificature du tabernacle de David, qui est une sacrificature de louange permanente devant le trône de Dieu, parce que l'arche de l'Alliance, c'est le trône de Dieu, dans l'optique du gouvernement. Pourquoi cela ? Parce que David, c'est quand même le roi. C'est pas le sacrificateur, c'est pas le souverain sacrificateur. Il est de la tribu de Juda. Et d'ailleurs, c'est un chantre, David. C'est un chantre de la tribu de Juda. Donc il personnifie vraiment en lui-même la nouvelle sacrificature. Il n'est pas de la tribu de Lévi et pourtant il fait entrer l'arche de l'Alliance au milieu même de la cité de David, c'est-à-dire le lieu du gouvernement, le lieu royal. Et là il établit un culte permanent de louange et d'adoration pour, quelque part, remettre Dieu au centre de la vie politique, sociale, économique et militaire d'Israël. Et à partir du moment où David va faire ça, eh bien le royaume d'Israël ne va plus cesser de grandir. Et vous savez qu'au niveau géographique, c'est du temps de David que les frontières ont été les plus larges, que les conquêtes ont été les plus grandes. C'est David qui a conquis le grand Israël. Et donc il y a un lien direct, d'une évidence fantastique, entre cette louange permanente qui a lieu à Jérusalem autour de l'arche et la prospérité guerrière de David. Et là, on est vraiment dans cette période qui est préfigurée là de l'histoire de l'Église. L'Église doit étendre la domination, non pas de manière, on va dire, terrestre, en prenant les gouvernements et en prenant les pays dans une espèce de théocratie humaine, on n'est pas là-dedans, mais spirituellement, on est dans une conquête géographique pour que le règne de Dieu avance dans toutes les nations. C'est ce que Jésus donnera comme mission à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les. Et donc en faisant cela, en établissant des autels de louange et d'adoration permanente, on est dans une conquête géographique. Vous voulez conquérir votre ville, géographiquement parlant, établissez un autel permanent de louange, d'adoration et bien sûr d'intercession, comme on le verra, les deux sont complètement liés. En faisant cela, il se passe quelque chose au niveau géographique. Vous savez que la géographie est très importante dans la parole de Dieu, au niveau des nations et au niveau du projet de Dieu. Et si c'est important au niveau de la terre, c'est parce que c'est important au niveau du ciel. Et il y a une géographie spirituelle. Il n'y a pas les mêmes dominations spirituelles dans tous les lieux géographiques de la terre. Vous allez en Chine, je vous assure, c'est vraiment autre chose. Les dominations spirituelles qui sont au sud de la Chine n'ont rien à voir avec les dominations spirituelles qui sont au sud de la France. Sauf Mammon, c'est celui qui est partout. De plus en plus, d'ailleurs, avec la mondialisation, lui, on va le retrouver partout. Il y a certains, peut-être, qui... C'est peut-être le bras droit et le bras gauche du diable, donc ils sont partout. Mais après, il y a des dominations bien particulières, dans des lieux bien particuliers, et qui sont rattachées à des cultures, à des cultes, à des religions, à des philosophies, à des courants de pensée, et à des choses occultes, bien sûr. Et tout cela détermine le ciel spirituel qui domine nos nations et nos cultures. Et à partir du moment où on établit un autel de louange et d'adoration à notre Dieu, eh bien, on est en train de faire des percées spirituelles dans ce monde de ténèbres, parce que nous entrons directement devant le trône de Dieu. Nous entrons directement là où il y a le gouvernement de Dieu, et ce gouvernement de Dieu en Christ, c'est un gouvernement qui concerne la terre. Et du coup... Il y a une échelle de Jacob qui se met en place entre les cieux et la terre et qui permet les allées et les venues entre le ciel et la terre. L'échelle de Jacob, vous rappelez le rêve de Jacob, il voit les anges de Dieu monter et descendre et il dit c'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un lieu de communication entre le ciel et la terre pour que le gouvernement de Dieu, qui est toujours accompli dans le ciel, s'accomplissent sur la terre, dans notre géographie. C'est pour ça que lorsque Jésus dit « Quand vous priez, voilà comment il faut prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, adoration, et que ton règne vienne sur la terre, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle l'est dans le ciel. » Et cette intercession-là, ce n'est pas du « Inch'Allah » comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est proactif. Si Jésus nous dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel, c'est qu'elle ne l'est pas sur la terre. On est bien d'accord. De toute façon, il n'y a qu'à regarder les infos, on le sait. Mais du coup, c'est vraiment proactif. Nous intercédons parce que nous savons que notre autorité spirituelle peut faire changer les choses ici et maintenant sur la terre. Je me suis échappé de mon truc, mais c'est pas grave. Tabernacle de David. Sacrificature de louange, d'action de grâce, qui conduit à une dimension d'autorité dont je reparlerai. Cinquième point de cette sacrificature, de ces différences entre les deux sacrificatures, c'est une sacrificature de bénédiction céleste. On va lire deux textes. Hébreux 9. Le verset 11, juste deux versets, enfin compte deux, trois versets. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc ce verset déjà nous parle de la sacrificature de Christ, cette nouvelle sacrificature. Il est souverain sacrificateur des biens à venir, c'est-à-dire les bénédictions du royaume de Dieu. Les biens à venir, c'est les bénédictions du règne à venir, du siècle à venir. C'est une expression qu'on trouve aussi dans l'Épître aux Hébreux. Le siècle à venir doit faire irruption dans le siècle présent. C'est la théologie du royaume de Dieu qui nous dit cela. Le siècle à venir, les bénédictions du siècle à venir, Christ a ouvert les cieux et a fait l'expiation pour que nous puissions obtenir l'héritage et les bénédictions du siècle à venir et que nous puissions les faire venir sur la terre. Donc on n'attend pas simplement le siècle à venir en se tournant les pouces, en se disant vivement que ça vienne, parce qu'il y en a marre de ce siècle présent. Ça peut être une attitude chrétienne qui est parfois même presque enseignée. Malheureusement, on attend, on serre les coudes, pour ne pas dire on serre les fesses, mais on serre les coudes, et on attend que Jésus revienne. Et on essaye de garder notre propre salut. C'est vraiment la vision la plus restreinte de la foi. Mais c'est déjà pas mal, on va dire. Mais cette vision du royaume de Dieu nous dit, non, mais on n'attend pas que ça vienne, on fait venir. Même si on sait qu'on n'aura pas tout tant qu'il ne reviendra pas lui, donc il y a de toutes les façons encore une espérance fantastique de gloire, mais on commence le boulot dès maintenant. on fait venir sur la terre les bénédictions célestes. Et vous rappelez Paul dans son épître aux Éphésiens qui nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. » Elles sont là-haut. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les lieux célestes, ce n'est pas ici, c'est là-haut. Donc il faut faire venir. Vous connaissez tous Heidi Baker. Elle a eu une vision fantastique concernant la guérison. Le Seigneur l'a emmenée au ciel. Et elle a vu les chambres de stockage des membres, des corps qui sont prévus pour la réparation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans un espace du ciel que le Seigneur lui a montré en vision, je ne sais pas comment elle était là-haut. Elle voyait comme des étagères, vous savez, comme quand vous allez pour changer la voiture, il y a des pots d'échappement, il y a des trucs, des machins. Ben là, elle voyait des bras, des estomacs, des yeux, des... Incroyable. Et le Seigneur lui dit, mais dans des guérisons, pour les miracles comme ça, c'est va prendre, va te servir dans le ciel et amène ça sur la terre. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est de la vision? On s'en fiche. Le principe qui est derrière, c'est que c'est là-haut que ça se passe. Et que c'est de là-haut que nous faisons venir sur la terre, que ce soit les guérisons physiques, et bien sûr toutes les autres bénédictions dont nous avons besoin, même les matériels. Les finances sont là-haut. C'est là-haut qu'on les débloque. Bien sûr, après, elles sont terrestres, les billets de banque sont bien terrestres, il n'y a pas de souci. Mais c'est là-haut qu'on les débloque. C'est dans la prière et dans l'intercession. Même si après, il nous faut des stratégies, bien sûr, sur la terre. Deuxième texte, et là, ça parle plus de la dimension céleste. Je fais une petite bifurcation par le verset 23 et 24. Toujours du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc ça parle bien de Christ et de son œuvre. Il est entré dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu, dans le sanctuaire véritable, qui n'est pas fait de main d'homme. Et pourtant, il nous est dit que les choses célestes ont dû être purifiées par un sacrifice plus excellent que les sacrifices de la terre. Moi, je me suis souvent creusé un peu les méninges par rapport à ce verset-là. J'ai dit, Seigneur, quand même. Il a fallu purifier le tabernacle céleste. Comment ça se fait? La seule réponse que j'ai trouvée à cela, et je ne suis pas le seul à l'avoir trouvée, je vous rassure, c'est l'histoire du péché originel. Je vous rappelle que ce n'est pas Adam et Ève qui ont péché en premier. Heureusement, d'ailleurs. Premier à avoir péché, c'est un chérubin de gloire. C'est Lucifer. Chérubin de gloire, il était où, ce chérubin de gloire? Il était dans les cieux. Les chérubins, c'est peut-être ceux qui sont le plus proches du trône de Dieu. Il était un archange, justement, un conducteur de louanges, comme on dit. Chérubin de gloire, il voyait Dieu face à face. Donc là, on est dans un mystère, le mystère du péché originel, m'en demandez pas plus. Il était dans sa position d'adorateur et de créature splendide, magnifique, contemplant la face de Dieu, adorant Dieu, gouvernant cette équipe de louanges fantastique, jusqu'à ce que l'orgueil fût trouvé en lui. Me demandez pas d'où venait cet orgueil, mais il y a eu un jour qui a tout déclenché. Et là, il s'est passé quelque chose devant la face de Dieu, quoi. Le péché est entré. Le péché est entré. Donc il y a eu souillure. Il y a eu souillure dans le ciel. Et il y a le souvenir de cette souillure. Parce que bien sûr, le Seigneur là, s'est débarrassé de lui, mais ça n'a pas été aussi simple. Quand on lit dans Job, on voit quand même Satan qui a accès encore à la présence de Dieu, hein, pour dire ah, « t'as vu ton serviteur Job ?» Il y a des trucs qu'on ne comprend pas tout, et ça nous est un peu caché, mais ça a été compliqué même pour Dieu, de résoudre ce problème-là. Parce qu'en fin de compte, ce problème ne sera résolu qu'à la croix. À la croix, Jésus ne traite pas uniquement le péché des hommes, il traite le péché originel. Il nous est dit dans l'épître aux Colossiens qu'il a réconcilié le ciel et la terre avec Dieu par le sang de sa croix. Les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre ont été réconciliées. Et là, le mot réconcilier nous parle de remettre en harmonie toute chose avec le trône de Dieu. Il n'y a pas de rédemption pour les anges. Les anges qui ont chuté, on les appelle justement les anges déchus, ils ne peuvent pas obtenir le pardon. Ils ne peuvent pas avoir accès à la grâce parce qu'ils étaient face à face avec Dieu. Ils voyaient Dieu face à face. Donc Dieu les a précipités dans les ténèbres. Mais pour qu'ils soient remis en harmonie avec son trône, il faut qu'ils soient jugés. Et c'est à la croix que Dieu dépouille le diable de toute son autorité, de toute sa puissance, parce que le diable a été vers les hommes pour gagner de l'autorité. Et c'est pour ça que lorsqu'il entre dans le jardin d'Éden, alors Dieu le permet bien sûr, mais il entre avec un objectif bien précis, c'est d'emmener la créature de Dieu, la créature image de Dieu, parce que les hommes sont, c'est une créature supérieure. On est image de Dieu, d'emmener cette créature image de Dieu avec lui dans sa chute. Et donc il faut que Dieu envoie son Fils pour régler le problème de la rédemption de l'homme afin de vaincre le diable qui avait pris de l'autorité en nous emmenant avec lui dans sa chute. Vous comprenez le truc ? Donc lorsque Jésus entre au ciel, et on revient à notre texte, avec le sang de la rédemption, il entre dans le tabernacle céleste. Il apporte le sang et il purifie les cieux de la rébellion première. Il dépouille le diable de tout le reste d'autorité qui lui restait. Et c'est pour ça que Colossiens nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Le diable a véritablement perdu toute autorité et tout pouvoir au moment de la croix et au moment de l'ascension de Christ, lorsqu'il purifie. Il a été précipité, l'accusateur des frères. Il n'a plus accès. Depuis ce jour-là, depuis l'ascension de Christ, le diable n'a plus accès au trône de Dieu. Celui qui nous accuse, il nous accuse sur la terre, mais il ne nous accuse plus devant Dieu. Ce qui veut dire quoi pour revenir à notre sacrificature ? C'est que notre sacrificature, maintenant, se trouve dans une position d'autorité spirituelle au-dessus du diable et au-dessus des anges déchus. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait pour peu de temps inférieur aux anges. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit ça. Mais maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ça, c'est Christ. Mais je vous rappelle qu'en Christ, nous avons été incorporés. Et c'est pour ça que Paul nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre sacrificature n'est pas terrestre, elle est céleste. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, dans l'adoration, nous sommes dans la position d'autorité spirituelle sur les puissances, les dominations de ce monde. Nous entrons dans notre règne avec Christ, spirituellement. Amen. J'ai entendu un amen. Je suis content. Waouh! Voilà, ça, c'est la conséquence de tout ça. Je continue. Donc, là, on était sur les bénédictions célestes. Et quelque part, j'ai empiété sur le sixième point, une sacrificature d'autorité. Matthieu 28, 18, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». C'est à sa résurrection qu'il peut déclarer cela. « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et le principe de l'autorité spirituelle est lié au principe du sacrifice. Plus le sacrifice qui est fait est grand, plus l'autorité spirituelle qui en découle est grande. Je vous amène dans un texte qui se trouve dans la Genèse, chapitre 22. Et c'est bien sûr l'histoire du sacrifice d'Isaac, qu'on ne va pas lire, qu'on connaît bien. Elle est étonnante, cette histoire. Vous savez qu'Abraham est dans une marche avec Dieu depuis des années et qu'il a déjà obtenu beaucoup de choses. Justification par la foi, c'est déjà fait, par exemple. Donc, il continue sa marche et Dieu va le faire monter encore plus haut dans sa vie de foi. Il va amener sa foi à la perfection par l'obéissance du sacrifice d'Isaac. Et à la fin de cette histoire-là, une fois que Abraham a obéi, vous connaissez l'histoire bien sûr, Dieu l'a arrêté, hein, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice d'enfants, mais Dieu prend plaisir à l'obéissance. L'obéissance est plus grande que le sacrifice. Donc Dieu arrête bien évidemment la main d'Abraham et il remplace par le bélier qui est un type de Christ. Et ensuite, l'ange de l'Éternel va redonner à Abraham la promesse. La même promesse qui avait été donnée dans Genèse 12, au départ de la vie de foi, elle est redonnée. Elle est donnée d'ailleurs plusieurs fois dans l'histoire d'Abraham. Elle est redonnée à ce moment-là, mais avec quelque chose en plus. Donc on la lit, verset 15 et suivant. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est quasiment la même promesse, sauf que le Seigneur rajoute une chose. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça n'y est pas dans les autres promesses. C'est uniquement au moment du sacrifice d'Isaac que le Seigneur rajoute la dimension d'autorité sur les ennemis. Ça en dit long. On est toujours dans une démarche de foi, mais le sacrifice de la foi augmente au fur et à mesure de la marche d'Abraham. Et là, il amène sa foi à la perfection par le sacrifice de son fils. Bien sûr, c'est un type de Christ. C'est le Père qui amène Jésus à la croix. Mais c'est aussi un type de croissance en autorité spirituelle. Est-ce que vous voulez toujours être des sacrificateurs ? Les sacrificateurs, on va faire une pause, mais ce sera la deuxième partie de mon enseignement, offrent des sacrifices. Les sacrificateurs offrent des sacrifices. Sinon, on est des chanteurs. Ce qui est déjà pas mal. Mais quand tu chantes faux, bah, t'es juste un chanteur qui chante faux. Un chanteur qui chante juste, c'est mieux. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Un sacrificateur, il offre des sacrifices. Abraham va offrir son fils Isaac, summum du sacrifice, et en plus, c'est le fils de la promesse. C'est ce qu'il a obtenu par sa foi. Il doit sacrifier ce qu'il a obtenu de la part de Dieu par la foi. Donc lui, c'est top niveau. Et là, il gagne en autorité spirituelle. L'Église qui a de l'autorité spirituelle est une Église qui offre des sacrifices à Dieu. Et si je dis l'Église, c'est valable aussi individuellement. Partout où vous voyez des ministères d'autorité spirituelle, sachez qu'il y a des prix qui ont été payés. C'est pas, on n'est pas en train de jouer dans toutes ces réalités spirituelles. On est dans du réel, on est face à des ennemis. On est face concrètement à des puissances spirituelles. On est face à des maladies réelles, on est face à des démons réels, on est face à des perditions réelles. La réalité du monde autour de nous est bien réelle et elle est terrible parce qu'il y a des puissances bien réelles derrière qui agissent et qui ont une certaine autorité spirituelle et qui sont alimentées eux aussi par des sacrifices. Parce qu'ils ont des adorateurs, parce qu'ils ont des sacrificateurs qui sacrifient pour eux. Et bien sûr, l'islam intégral auquel on fait face en ce moment est la preuve par 9 qu'il y a une corrélation directe entre la dimension du sacrifice et la puissance et l'autorité spirituelle qui influence un lieu géographique. Waouh ! Il ne fallait pas m'inviter. Du coup, le défi qui est devant nous est un défi qui sera relevé à la hauteur des sacrifices que nous allons offrir. Alors, ayant dit tout cela, on se met dans la foi et dans le repos. Le sacrifice de Christ est pleinement suffisant. Amen. Ouf. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais le sacrifice de Christ est un chemin par lequel nous devons passer pour suivre le Seigneur. C'est ce qui s'appelle la vie de disciple. Être sauvé ne nous donne pas beaucoup d'autorité spirituelle, mais ça nous permet d'aller au ciel un jour. Être disciple nous conduit dans une réelle autorité spirituelle qui va remporter des victoires terrestres aujourd'hui et maintenant. Être disciple, c'est la réponse normale au sacrifice que Jésus a fait de sa vie. Je termine avec le 7e point de cette comparaison. J'en ai un peu parlé ce matin, mais c'est la notion de sacrificature d'intimité. La sacrificature selon l'ordre d'Aaron était une sacrificature distante, puisqu'on ne pouvait jamais s'approcher pleinement de l'intimité de la présence de Dieu. Ils expérimentaient beaucoup de choses. Il y avait la gloire de Dieu quand même sur le tabernacle. Ils vivaient l'extérieur de la gloire. Et quelque part, parfois, nous, les charismatiques, on aimerait vivre l'extérieur de la gloire, avoir des paillettes, des plumes, et du feu, et du vent, et tout ça, c'est magnifique. Moi, je suis le premier à vouloir ça, la nuée. Mais tout ça, c'est l'extérieur de la gloire, mes amis. C'est pas mal, l'extérieur. Mais la nouvelle alliance, c'est avant tout une gloire intérieure. Alors, si on a les deux, tant mieux. Pas de problème avec la gloire extérieure, pourvu qu'on ait la gloire intérieure. C'est l'histoire, vous savez, de tomber dans l'esprit. Tomber dans l'esprit, c'est une manifestation extérieure de la gloire, parce que la présence de Dieu est sur nous, et notre corps ne tient pas le choc, il tombe. Mais si tu te relèves et qu'il ne s'est rien passé à l'intérieur, tu n'as vécu que l'extérieur de la gloire, et ça ne sert pas à grand-chose. Les Israélites, ils ont vécu l'extérieur de la gloire pendant 40 ans au désert, et ça ne les a pas empêchés de se rébeller. L'intérieur de la gloire, c'est ce qui compte. Et c'est l'intimité avec Dieu. C'est la capacité d'être dans une communion véritable avec lui, où on entend sa voix, où il nous parle, où je lui parle, et où on se laisse transformer de gloire en gloire. Ce n'est pas qu'on brille de plus en plus, c'est notre vie intérieure qui est transformée de plus en plus. C'est ça la gloire de la nouvelle alliance. Moïse se cachait le visage pour qu'on ne voit pas briller, qu'on ne voit pas la gloire passagère passer. Mais nous sommes dans une gloire permanente, mais elle est intérieure. Donc l'intimité, c'est la grande différence, une des grandes différences entre les deux alliances et entre les deux sacrificatures. Et nous avons accès au Père. Je ne vais pas parler de ça parce que c'est encore un autre sujet, mais vous pouvez le noter, c'est l'intimité avec le Père. Jésus est venu révéler Dieu le Père. Ce que les Israélites et ce qu'Israël n'avait pas. Israël avait la révélation de Dieu comme Père en tant que nation. mais pas individuellement, chacun pour soi. Nous avons la révélation non pas de Père en tant que nation, mais de Père, de mon Père, en tant que personne. Il nous a adoptés. Israël est un peuple adopté, nous sommes des individus adoptés. Et quand un Israélite découvre le Père, alors les deux adoptions en une, c'est l'explosion. Un juif qui découvre le Père, c'est l'explosion. Parce que toute son identité nationale est réconciliée avec son identité intérieure. Ok, on va faire une pause pour que je me repose, et vous aussi, et on reprendra dans quelques minutes. Ok. L'œuvre de Jésus est tellement magnifique. En fin de compte, plus on étudie Christ, plus on peut l'adorer, hein, en esprit et en vérité. L'adorer en vérité, c'est l'adorer aussi sur la base de la vérité. On peut adorer en méditant la parole de Dieu. On peut découvrir la beauté de Christ en méditant ce qu'il a fait, et du coup l'adorer, et le connaître, être dans une relation d'amour encore plus forte. Plus on connaît le Seigneur, plus on l'aime. C'est peut-être pas la même chose avec les êtres humains, mais avec lui c'est sûr. Plus on le connaît, plus on l'aime. Je fais une petite parenthèse d'un seul coup là, qui me vient, mais j'ai cette image, je l'utilise souvent pour parler de la louange et la différence entre la louange des anges et la louange des hommes. Quelque part, ça touche le sujet. Les anges, leur louange est basée sur ce qu'ils contemplent de Dieu. Et donc leur tube au ciel, c'est « Saint, Saint, Saint ». Et l'Éternel des armées. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Ils le contemplent face à face, quoi. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et un jour, j'ai eu comme une... Pas une vision, parce que c'était pas une vision, mais j'ai imaginé cette louange du ciel. Et puis, je voyais d'un seul coup donc, cette louange éclatante de la sainteté de Dieu. Et puis, d'un seul coup, les anges entendaient un autre son. Une autre louange qui montait de la terre. Et puis ils étaient interloqués, puis il y en a un qui tape du coude à son copain au 7000e rang de la chorale, tu sais. Il dit, écoute, tais-toi un peu, écoute, il y a un autre chant, là, jamais entendu, quoi. Et puis ils commencent à tendre l'oreille, et ils entendent un chant qui monte de la terre. Et ce chant dit, louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon. Et puis d'un seul coup, c'est des milliers de voix qui s'élèvent de la terre. Et puis les anges arrêtent même de chanter dans le ciel. Et ils se retournent tous vers la terre et ils contemplent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant. Ils contemplent la grâce de Dieu. Ils ont la révélation de toute une partie de Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Les anges ne peuvent pas connaître la grâce de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour l'univers entier, nous sommes une révélation du caractère fondamental de Dieu, qui est un Dieu de miséricorde et de grâce. C'est pour ça qu'il y a des versets qui disent que les autorités et les anges plongent leur regard dans l'Évangile et dans l'Église pour voir la sagesse et la révélation de Dieu. Ils découvrent quelque chose qu'il n'y a pas là-haut. Il n'y a pas la grâce de Dieu là-haut. C'est nous qui allons la porter. Nous sommes les preuves. C'est pour ça que Paul dit « Nous célébrerons la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé ». C'est ça notre tube à nous. Donc on peut chanter saint, 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 il n'y a pas de souci. Mais notre vrai tube, c'est Seigneur, tu es tellement bon. La bonté et la grâce, et la miséricorde de Dieu. Et du coup, les anges, je reviens à ma petite vision, ils s'écartent et puis ils laissent monter ce peuple de la terre qui monte. Et puis ils sont étonnés, quoi, parce que les gars, ils les connaissaient avant. Ils étaient dans le péché, quoi. Ils étaient sérieusement sales. Et je vous assure que le péché, pour les anges, c'est sale. Pour nous, ça passe encore. Mais je vous assure que là-haut, le péché, c'est grave de chez grave, quoi. Pour nous aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le regard qu'ils ont sur le péché, on ne peut pas imaginer. Donc ils nous ont vus être purifiés de nos péchés, entrer dans le tabernacle céleste. Donc lorsqu'on adore, ils nous laissent entrer et on va plus proche qu'eux. Eux, ils sont déjà devant le trône de Dieu, nous, on va encore plus proche. On va dans les bras du Père, on monte sur le trône, on fait du patin à glace sur la mer de cristal. Vous voyez ce que je veux dire? On est accueillis, quoi. On prend les bannières, on fout le souk là-haut. J'allais dire, c'est les Français qui arrivent. Non, c'est les hommes qui arrivent. Waouh. Et en plus de cela, Jésus dit, bon les gars, avec moi sur le trône, quoi. Nous avons part à une vocation céleste qui est absolument incroyable. Il y a même un verset qui dit « Nous jugerons les anges ». Bon, ça c'est le 27e point de l'enseignement. On va partir maintenant sur une notion très agréable, la notion de sacrifice. Dans l'ancienne alliance, il y avait toutes sortes de sacrifices qui étaient offerts dans le temple, qui étaient offerts dans le sanctuaire, dans le tabernacle, avec plein de règles. C'est même étonnant le nombre de règles qu'il y a concernant les sacrifices. Et la question se pose, qu'est-ce que nous offrons comme sacrifice dans la nouvelle alliance, dans notre sacrificature selon l'ordre de Melchisédek? On rappelle le texte de 1 Pierre 2,9, hein, « Approchez-vous de la pierre vivante, rejetée par les hommes, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc on a encore un rôle de sacrificateur qui offre des victimes spirituelles. Et donc la question se pose, mais ce sont quoi ces sacrifices? Alors, bien évidemment, nous en connaissons certains. Et je me suis amusé à lister un peu tous les sacrifices de l'ancienne alliance et d'essayer de voir à quoi ça pouvait correspondre dans la nouvelle alliance. Et c'est assez intéressant. Et on va parcourir ça ensemble. Et bien sûr, le mot qui est le plus utilisé dans l'Ancien Testament concernant les sacrifices, vous le connaissez bien, c'est le mot « holocauste ». Il est utilisé 273 fois dans l'Ancien Testament. Pas rien, c'est holocauste. La signification de l'holocauste, même s'il y a des variantes, mais la plus évidente, c'est la notion d'un sacrifice entièrement consumé par le feu. C'est ça l'holocauste. Vous savez qu'il y a des sacrifices qui étaient cuits à point, et après on les retirait du feu pour les manger. C'était la nourriture des sacrificateurs. Mais l'holocauste, lui, il est entièrement consumé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui revient aux hommes, tout est pour l'éternel. Donc c'est ça l'holocauste. Et c'est le terme le plus utilisé, 273 fois, je vous ai dit. Et bien évidemment, c'est le sacrifice qui correspond le plus à ce que Christ a accompli. Lui, il a tout donné, son être a été entièrement offert et consumé. Toute sa vie entière jusqu'à la croix a été un holocauste parfait à l'éternel. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous avons un certain théologien nommé apôtre Paul qui nous a mis les bâtons dans les roues dans son épître aux Romains. Et ceux qui connaissent l'épître aux Romains voient de quoi je veux parler. Vous savez que l'épître aux Romains, c'est une épître très intéressante parce que Paul expose la doctrine du salut, sa doctrine du salut, qui est une doctrine bien sûr du salut par la foi et par la grâce. Et donc, dans les 11 premiers chapitres, il expose la doctrine du salut. D'ailleurs, j'en parlerai demain. Les chapitres 9, 10 et 11 parlent du salut d'Israël, notamment. Et arrivé au chapitre 12, il introduit la partie pratique de l'épître. Donc, il vient d'expliquer tout ce que Christ a fait et comment obtenir le salut. Et ensuite, il dit, première conséquence, chapitre 12, verset 1er. Comme vous connaissez la Bible très bien, vous savez tout à fait de quoi je parle. Chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc il y a un « donc » qui fait suite à tout ce qu'il a énoncé dans les premiers chapitres, « frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et j'ai fait exprès de lire les deux versets parce que je crois qu'ils sont totalement liés dans la compréhension de ce que Paul nous dit. Donc, après avoir exposé la doctrine du salut, les compassions de Dieu en Christ et comment il nous a sauvés dans sa grâce, il nous exhorte à un culte raisonnable. Et le culte raisonnable, c'est le culte des Français. Parce que nous sommes des gens qui fonctionnons avec la raison. Et en grec, c'est le mot logikos, le culte logique. Donc, je veux dire, là, on est en plein dedans, quoi. C'est pour nous. À cause des compassions de Dieu, voilà la réponse logique. Offrez vos corps en sacrifice vivant et saint. Oui, le salut est gratuit. Tout l'exposé de Paul nous le prouve. La grâce de Dieu, on ne peut rien ajouter à la grâce de Dieu. Elle est obtenue simplement par grâce, c'est quoi de le dire ? Par la foi. Mais à cause de cette grâce, à cause de ce don immérité, alors la seule réponse logique, mais qui n'est pas obligatoire, qui ne va pas nous sauver, c'est pas parce que tu offres ta vie que tu seras sauvé. Non, tu es sauvé parce que tu crois à la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas obligatoire en vue du salut. Mais c'est la seule réponse logique à un tel amour. C'est une réponse d'amour à amour. On n'est plus dans la notion du salut. On n'est plus dans la notion du mérite. On n'est plus dans la notion des œuvres. Tout est fait, tout est accompli. On l'a accepté par la foi, on l'a reçu par grâce. Donc, logiquement, voilà ce que ça doit produire dans votre vie. Le sacrifice de tout votre être. Oh ben mince. Les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance ont deux sacrifices. Un sur lequel ils basent leur foi et qui a été offert une fois pour toutes. C'est le sacrifice de Jésus qui est mort et bien mort et ressuscité le troisième jour. Et un autre sacrifice qui est le sacrifice de leur vie. On décortique la parole et le verset qu'on vient de lire. Vous connaissez le plus grand commandement que Dieu nous a donné et que Jésus reprend dans les évangiles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ta force, de toute, je sais plus, de tout ton cœur, de toute ta pensée. D'ailleurs, intéressant, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas ta pensée. Dans le Nouveau Testament, il y a ta pensée. Vous avez sûrement souligné ça, oui, si, bien évidemment. Parce que l'Ancien Testament est adressé à un peuple qui n'est pas dans justement le logikos et la connaissance grecque. Donc là, Jésus, il rajoute ça. Il dit, voilà, maintenant on est chez les Grecs, on va préciser le truc. La pensée aussi. Mais c'est exactement ce dont il nous parle, Paul. Le renouvellement de l'intelligence. Le plus grand commandement, c'est ça. Offrez tout. Quelle est la différence entre aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, tout son être, toute sa pensée, tout d'un, et offrir nos corps en sacrifice vivant? Il n'y a aucune différence. C'est la même chose exprimée différemment, mais c'est la même chose. C'est-à-dire un 100% de reconnaissance pour lui. On lui offre tout. C'est le culte raisonnable et ça commence par offrez vos corps. Dans le monde évangélique, je dis souvent ça, hein, vous avez remarqué, on parle beaucoup plus de donner son cœur que de donner son corps. D'ailleurs, on ne dit jamais « donner ton corps à Jésus ». Vous avez déjà vu un appel au salut comme ça ?« Donne ton corps à Jésus ». Donc du coup, donne ton cœur. C'est plus facile. C'est pas plus facile. Mais l'expression « donne ton corps », elle est violente, quand même. Elle est concrète. Et elle est justement opposée à la séparation que l'on fait dans la philosophie grecque et donc française entre le corps et l'esprit. Tu peux donner ton cœur et garder ton corps. En fin de compte, c'est ça. Tu peux donner quelque part ton affection, peu importe ce que tu fais avec ton corps. Ça, c'est la pensée grecque. Mais la pensée biblique, c'est une pensée réconciliée. L'homme, esprit, âme et corps, c'est avant tout une unité devant Dieu. Nous sommes un. Et heureusement. Et d'ailleurs, parfois, en restauration et en guérison intérieure, il faut réconcilier les parties de nous-mêmes. Mais Dieu nous a créés un. Et il ne divise pas notre être. Il le sanctifie. Le problème, c'est que notre corps est le seul qui n'a pas encore accès à la rédemption. C'est pour ça que nous sommes sauvés en espérance. Notre esprit a été renouvelé par la nouvelle naissance. Notre âme est dans un processus de guérison, de consolation, de purification, tout ce que vous voulez. Et ça, on en bave tous les jours. Et notre corps, il est en attente de la résurrection. Enfin, à moins que certains soient déjà ressuscités parmi nous. Est-ce que quelqu'un a arrêté de vieillir ici? Notre corps est toujours dans l'ancienne création. Il bénéficie de la bénédiction de Dieu par l'Esprit qui agit en nous. On peut être touché par Dieu dans notre corps et bien sûr guéri de nos maladies. Mais que tu sois guéri de ta maladie ou pas, tu vas vieillir et mourir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le corps reste sous l'emprise de la vieille nature soumise à la corruption et au péché. Ça veut dire que si on était libéré de notre corps, on serait parfait. Ben oui, si tu meurs là tout de suite, tu deviens parfait. Enfin, je ne sais pas pour toi, Luc, mais... Là, c'est le coup, tout le monde se met à réfléchir. À moins que le salut qu'on ait obtenu ne soit pas parfait, mais si on meurt... Ce qui va sortir de nous va être parfait. C'est un mystère, ça. Je dis une bêtise ou pas, là? Non, non, tu réfléchis en même temps que moi.
Le statut, on est parfait en
Christ. Oui.
La
manifestation
n'est pas encore.
Ouais.
C'est un statut de perfection par la foi, c'est notre statut.
Oui, c'est un statut, mais... Ok. Oui, non, tout à fait d'accord sur la paix statut, mais sur la réalité, moi, je ne sais pas pour toi, moi je ne suis pas encore parfait, mais bon.
Non, mais dans cette
Ok, revenons à notre. à ce que je disais. Dans tous les cas, même si on est déjà parfait ou pas, mon corps n'est pas parfait. Alors je ne sais pas pour le tien. Voilà, donc là, on est d'accord. Du coup, si on meurt. Eh bien, on entre directement dans la plénitude de cette nouvelle nature en attente du corps, de la résurrection. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour dire que si on n'offre pas nos corps en sacrifice, on donne encore beaucoup de pouvoir à la puissance du péché qui habite en nous. Et il y a des versets dans la parole de Dieu qu'on n'aime pas du tout. Quand Pierre dit « Vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang contre le péché. » Vous avez vu ce verset-là? Vachement difficile à interpréter ça. En général, on l'évite celui-là. On ne sait pas quoi en faire. Alors, je ne vais pas l'interpréter pour vous, je n'ai pas l'interprétation exacte de ce verset-là. Mais il y a une notion de combat au niveau du corps qui est vachement importante. Qui est vachement importante. Et qui nous amène dans cette compréhension de ce qu'est un sacrificateur. Un sacrificateur, il doit donner son corps au Seigneur. Parce qu'il rentre dans la présence de Dieu. Et vous avez vu dans l'Épître aux Hébreux, hein, c'est entrer dans le lieu très saint, le cœur purifié d'une eau pure, le corps aussi purifié d'une eau pure. Tu entres avec ton corps, tu ne rentres pas que avec ton cœur, tu entres avec tout ton être dans la présence de Dieu et tu viens tel que tu es, c'est vrai, mais entièrement consacré, tu offres toute ta vie. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est toute notre... tout ce que nous faisons. Avec ton corps, tu travailles. Avec ton corps, tu as des relations sexuelles avec ton épouse. Avec ton corps, tu parles avec les gens. Même si l'âme intervient, mais si tu n'as plus de bouche, si tu n'as plus de langue, tu ne peux plus parler. Avec ton corps, tu fais plein de choses. Avec ton corps, tu voyages. Avec ton corps, tu travailles. Avec ton corps. Bon. Donc si j'offre mon corps, mais j'offre tout. Tout ce que je fais. Toutes les relations que je vis, tous les endroits où je vais. Et c'est pour ça que offrir son corps, c'est une plénitude de sacrifice. Je consacre ma vie à Dieu. Alors bien sûr, on est tous en chemin par rapport à cela, et on est tous, je veux dire, on ne se juge pas les uns les autres. On fait tout par la grâce de Dieu, mais le chemin est le même. On offre ce que l'on peut et ce que l'on veut au Seigneur. Et je le pose vraiment comme un fondement de notre sacrificature, parce que c'est ce qui donne beaucoup d'autorité à notre sacrificature. Lorsque nous sommes devant Dieu, Dieu ne voit pas la personne que nous sommes uniquement, il voit tout ce que nous sommes tous les jours de notre vie. Il voit tout le reste, il voit notre vie de famille, rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Des sacrifices, et il rajoute, vivants. Donc là, on ne parle pas de mourir pour Jésus, ce qui est aussi une dimension de sacrifice, ça s'appelle le martyr, mais on parle de vivre pour Jésus. Sacrifice vivant. Et ensuite, il rajoute « et saint ». Et la sainteté, là aussi, c'est un sujet en soi qu'on ne va pas traiter, mais qui est lié à la compréhension de la justice et de la grâce de Dieu. Dans la nouvelle alliance, la sainteté est une sainteté puissante, une sainteté sanctifiante. Je m'explique. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Dans l'ancienne alliance, on n'avait pas le droit de toucher les lépreux, parce que sinon on devenait impur. Et même les lévites, qui étaient saints, s'ils touchaient un lépreux, il fallait qu'ils aillent se laver et faire tout le tralala, parce qu'ils devenaient impurs. Donc c'est une sainteté limitée, et qui a très peu d'autorité. Dans la nouvelle alliance, Jésus, le premier, lorsqu'il y a un lépreux, il va toucher le lépreux et lui dit « Je le veux, sois pur ». Donc c'est une sainteté d'autorité et de puissance, c'est-à-dire qu'il va communiquer ce qu'il est au lépreux. Il purifie le lépreux. Lui qui est pur, il a le pouvoir de purifier le lépreux. Donc ça n'a rien à voir avec une sainteté qui s'enferme sur lui-même, qui reste enfermé dans son temple et qui touche à rien d'impur. C'est pas ça la sainteté de la Nouvelle Alliance. C'est une sainteté ouverte sur le monde, qui va dans le monde. Vous n'êtes plus du monde, mais je vous envoie dans le monde. Et c'est une sainteté conquérante. C'est une sainteté qui a pour motivation l'amour. Il faut absolument qu'on réconcilie la sainteté et l'amour. Parce que Dieu est amour, et Dieu est trois fois saint. Et notre sainteté, lorsqu'elle est, je vais le dire différemment, notre vie, si elle est vécue dans l'amour, et l'amour de Christ, elle devient sainte. Celui qui aime accomplit la loi. C'est pas celui qui est saint va réussir ensuite à accomplir la loi. C'est celui qui aime accomplit la loi. C'est complètement différent. Jésus allait manger à la table des publicains, des gens de mauvaise vie. Il laisse une prostituée embrasser ses pieds et laver ses pieds avec ses cheveux. Mais attention, là, on est vraiment dans un truc hyper choquant. Mais puisqu'il aime, il n'y a aucune notion d'impureté et de péché. Son amour, le regard qu'il porte sur cette femme est tellement pur, tellement plein de grâce, qu'il n'y a absolument aucune prise au péché. Et c'est pour ça qu'elle explose en larmes et en repentance et en tout ce que vous voulez. L'amour nous permet d'aller auprès des gens sans être affecté par leur péché, mais au contraire en apportant la pureté, la grâce et l'atmosphère du ciel dans leur vie. Et ça, c'est l'évangélisation de la sacrificature, de la sainteté. Et ensuite, renouvellement de l'intelligence. Soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le mot métamorpho, c'est une métamorphose intérieure de pensée. Là, vous connaissez ce sujet, je ne vais pas le traiter, mais dans le sacrifice de nos vies, il doit y avoir une partie de transformation de l'intelligence. C'est pour ça qu'il faut encourager les gens à se former et à se former dans la parole de Dieu aussi. Et n'ayons pas peur d'enseigner la théologie dans l'Église. Dans quel but ? Pour discerner la volonté de Dieu et bien sûr pour la faire. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous donne la liste des sacrifices de l'Ancien Testament avec leur correspondance, une correspondance bien sûr possible pour nous dans la Nouvelle Alliance. Le premier sacrifice le plus important, c'est ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. C'est utilisé 72 fois dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, pour nous aujourd'hui, le sacrifice d'expiation, nous n'avons plus à le faire. Il a été accompli une fois pour toutes par Jésus. Donc le sacrifice d'expiation, c'est Jésus qui l'a accompli. Amen. Deuxième sacrifice, c'est le sacrifice de culpabilité. 28 fois. Le sacrifice de culpabilité peut correspondre par contre pour nous aujourd'hui à la repentance. Ça peut nous arriver quand même de nous sentir coupables. Donc la repentance, là je ne vais pas enseigner dessus, vous savez ce que c'est, mais ce n'est pas que des mots, c'est une dimension de sacrifice. Le sacrifice, par définition, coûte quelque chose. Se repentir, ça coûte quelque chose. Et parfois, on ne le fait pas, ou on le fait du bout des lèvres, ça ne sert pas à grand-chose, parce que le prix à payer de la repentance est trop important. Ça veut dire qu'on n'est pas encore suffisamment convaincu et suffisamment touché par la grâce de Dieu. Mais la repentance, c'est, comment il s'appelle, David qui dira dans le psaume 51, « Tu ne dédaignes pas un cœur contrit, un esprit brisé. C'est à de tels sacrifices que tu prends plaisir. » Il y a une dimension de repentance, de cœur brisé devant Dieu qui lui est agréable, bien sûr si elle est sincère. Et ensuite, on arrive bien sûr au sacrifice d'action de grâce. Et celui-là, c'est 86 fois qu'il est utilisé. Donc c'est le plus nombreux. Et dans la Nouvelle Alliance, bien sûr, c'est la louange et la reconnaissance, l'action de grâce dont je parlais tout à l'heure. Et je ne vais pas revenir en détail dessus. Mais vous connaissez le verset d'Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. J'essaye de m'en souvenir par cœur. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Il y a la notion d'offrir un sacrifice, et en plus, sans cesse. Et c'est le fruit de nos lèvres. Je rappelle, au cas où vous ne sauriez pas, que la louange sort par la bouche. Elle s'exprime par la bouche. L'expression orale devant Dieu est très importante. Pour Dieu, mais pas que. Vous savez qu'il n'y a que Dieu qui peut lire nos pensées. Le diable ne peut pas lire nos pensées. Le diable peut parler dans nos pensées, nous tenter, mais il ne peut pas lire nos pensées. Donc les puissances spirituelles savent ce que tu crois et ce que tu penses lorsque tu le dis de ta bouche. C'est pour ça que la confession de nos lèvres est très importante dans le domaine de la vie spirituelle. Pour les victoires intérieures, pour les repentances, pour le salut, hein, c'est en croyant dans le cœur et c'est en confessant de la bouche. On parvient à la justice quand on croit dans le cœur, mais on parvient au salut lorsqu'on confesse de la bouche. Donc la confession de notre bouche sépare le monde spirituel en deux. Ils entendent et ils savent à qui tu appartiens et de quel côté tu te trouves lorsque ça sort de ta bouche. Alors, on ne va pas tout résumer à ça. Il y a aussi des actions qui sont importantes, on est d'accord. Mais quand même, hein, la confession de foi est la pierre de touche de la foi chrétienne. Les premiers chrétiens ont été persécutés parce qu'ils confessaient Jésus Seigneur. Et c'est pour ça que lorsqu'on baptise des gens, on les baptise selon la confession de leur foi. Parce qu'on n'est pas dans leur cœur pour savoir exactement ce qui s'y passe. Donc c'est selon ce qui sort de leur bouche que l'on baptise. La confession de foi. Et Jésus dira, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Tout ça pour dire que la louange est une expression orale qui sort de la bouche, qui confesse le nom de Jésus. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, le lien entre la louange et l'autorité spirituelle. La proclamation du nom de Jésus dans notre bouche, dans notre louange, est une véritable arme spirituelle d'autorité qui déclenche dans le monde spirituel une séparation. On ouvre les cieux par nos louanges et on permet à d'autres d'y entrer. Proclamons notre foi. Quelque part, le témoignage est aussi une dimension de louange et d'action de grâce. Vous savez ce que ça veut dire Eucharistie? Pour les anciens cathos, ça veut dire action de grâce, l'Eucharistie. Et bien sûr, la scène, la Sainte Cène, c'est le moment privilégié de l'action de grâce. Après, il y a un autre sacrifice qui existait dans l'Ancien Testament, on le voit qu'une seule fois. Et c'est intéressant. C'est le sacrifice de consécration. Cette expression est utilisée une seule fois, c'est au moment de la consécration d'Aaron et de ses fils, qui vont être consacrés souverains sacrificateurs. Ils vont offrir un sacrifice de consécration. Et ce sacrifice de consécration, je ne le reprends pas, on le retrouve dans Romains 12, verset 1, « Offrons nos corps en sacrifice ». C'est-à-dire que nos vies se consacrent au Seigneur. Ensuite, toujours dans l'Ancien Testament, une catégorie de sacrifices un peu différente, ce sont ce qu'on appelle les libations. Jusqu'à maintenant, c'était des sacrifices d'animaux. Les libations, ce sont des sacrifices liquides. C'était soit du vin, soit de l'eau. L'huile, non, l'huile n'est jamais... Dans un sacrifice, l'huile vient sur le sacrifice une fois que le sacrifice est offert. C'est vraiment le symbole de l'esprit qui vient pour. L'huile symbolise ce que Dieu fait lorsqu'il agrée un sacrifice. L'huile, le feu, etc. Nous, on dépose le sacrifice. Donc l'eau et le sang, j'allais dire, et le vin, ce sont des libations. Dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas grand-chose, mais il y a un verset qui est assez fort là-dessus, dans 2 Timothée 4, versets 5 et 6, où Paul parle de ses souffrances, et il compare ses souffrances pour l'Évangile à une libation pour le Seigneur. Donc il y a une notion de souffrir pour l'Évangile qui est une notion de sacrifice agréé par Dieu. Quand on parle de porter sa croix, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Vous savez que le disciple doit porter sa croix. Et si tu veux être mon disciple, tu te charges chaque jour de ta croix et tu me suis. Donc c'est quand même un peu incontournable comme principe. Et la croix du disciple, c'est quand même quelque chose de, qui nous parle de sacrifice. C'est quoi ce sacrifice de la croix ? La compréhension juste de ce sacrifice de porter sa croix, je pense que c'est accepter d'endurer des souffrances à cause de Christ. C'est-à-dire que je décide d'obéir à Jésus, ça c'est la vie de disciple normale, on va dire, mais quand mon obéissance à Jésus va impliquer de la souffrance, alors je suis en train de porter ma croix. Donc ce n'est pas toutes les souffrances. Il y a plein de souffrances qui n'ont rien à voir avec la croix. Les souffrances contre lesquelles il faut se battre, les souffrances contre lesquelles qui sont la conséquence de nos péchés, les souffrances qui sont liées à la maladie. Enfin, il y a plein de souffrances qui n'ont rien à voir avec la croix. De mettre toutes les souffrances dans la croix, c'est une bêtise que malheureusement l'Église a fait longtemps dans son histoire. Mais par contre, certaines souffrances sont véritablement liées à la croix. C'est les souffrances conséquences de notre témoignage de l'Évangile. Quand tu es persécuté au travail à cause de ton attitude juste et de ton témoignage, tu es en train de participer aux souffrances de Christ. Et ça, c'est la croix. Et du coup, sois joyeux dans la souffrance de Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a plein de versets qui correspondent à ça, mais il faut vraiment les aligner avec ce principe-là. Et puis il faut vérifier, est-ce que tu es persécuté au travail parce que tu es pénible, ou est-ce que tu es persécuté au travail parce que tu es vraiment en train de suivre Christ. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a besoin d'éprouver aussi tout ça. Mais c'est clair que là, quand on parle de persécution, par contre, que nos frères chrétiens dans les pays subissent, là on est clairement dans la croix. Ceux qui sont persécutés pour l'Évangile en Irak, en Syrie, en Afrique avec Boko Haram, etc. Là, on est clairement dans la croix. Mais ça existe aussi dans nos contrées, entre guillemets, plus libres et moins violentes. Il y a une persécution sournoise qui existe quand même. Et les souffrances endurées dans le relationnel sont parfois plus violentes que certaines souffrances physiques. On peut être chassé par sa famille à cause de l'Évangile. On peut être renié par ses parents. Autre dimension du sacrifice, tout ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Dans le verset d'Hébreux 13, tout à l'heure, Hébreux 13, verset 16, verset 15, c'était par lui offrons sans cesse des sacrifices de louange. Le verset 16 nous dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » J'aime bien moi, ces deux versets rattachés l'un à l'autre. Il nous parle du sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom, et puis juste après il dit « Oh, 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 n'oubliez pas de concrétiser votre sacrifice de louange par des sacrifices de libéralité financière. » C'est comme s'il nous disait, les deux sont aussi importants devant Dieu. Ce que tu dis avec ton cœur et ce que tu fais avec ton porte-monnaie doit être en adéquation. C'est un sacrifice. Vous savez, le principe du sacrifice, ça coûte quelque chose. Donner de l'argent, ça coûte quelque chose. Ça coûte de l'argent, par définition. Je ne vais pas enseigner sur le principe de la dîme et des offrandes, etc. Ça prendrait plein de temps et voilà. Mais je vous donne juste quelques principes sur les dons de finances dans la Nouvelle Alliance. Très simple. Premier principe, donner avec joie. Déjà, c'est pour tester nos sacrifices de libéralité. Est-ce qu'on le fait avec joie ? Le faire à contre-cœur n'est plus un sacrifice d'adoration au Seigneur. Le faire par obligation légale, ça sert à rien. Premier point, le faire avec joie. Deuxième point, le faire volontairement. Volontairement. C'est-à-dire que personne ne peut nous obliger à donner quoi que ce soit. En France, c'est pas trop compliqué de dire ça. Hein. C'est pour obliger les Français à donner, il faut se lever tôt. Quoi. Mais volontairement. C'est-à-dire que c'est un acte délibéré, volontaire, et c'est ça qui plaît à Dieu. C'est pour ça que le principe de la dîme, on peut bien sûr le fonder bibliquement, mais si ça devient quelque chose simplement légal, obligatoire, sans joie et sans relation avec Dieu, ça perd toute sa puissance de la nouvelle alliance. Parce que les principes que je cite là sont plus importants que la dîme. C'est une question de cœur. Quand on commence à attaquer la dîme dans les églises, t'as les pasteurs qui... Troisième principe, donner de notre nécessaire. Oh, ça, c'est le principe qui tue. Le Seigneur ne parle jamais de quantité chiffrable dans le Nouveau Testament. Mais par contre... Vous rappelez l'offrande de la veuve ? Il y a celui qui donne de son superflu, et pour Jésus, c'est comme s'il n'avait rien donné, et l'autre qui donne de son nécessaire, même si c'était juste une petite pite, elle a vraiment donné. Alors ça, c'est le principe qui tue, parce qu'on ne donne pas souvent de notre nécessaire. On a plutôt tendance à donner de notre superflu. Et quand on donne de notre superflu, ça n'a pas beaucoup de prix devant Dieu. Fallait pas m'inviter. Et le dernier, il y en aurait plein d'autres, mais c'est les plus importants, le faire avec libéralité. Générosité. Donc, le Seigneur ne donne pas d'ordre de grandeur, parce que être généreux pour l'un n'est pas de la générosité pour l'autre. Ça dépend de ce que tu donnes, ça dépend de ce que tu as, ça dépend de plein de choses. Mais le principe est important. Dieu est généreux. Donc on donne comme Dieu donne. C'est-à-dire avec libéralité. Ça veut dire donner beaucoup et donner souvent. Et le beaucoup, chacun le mesure à la mesure de sa bourse. Hein. C'est pas la question du chiffre. Par contre, le souvent, ça, on peut toujours donner. Le Seigneur préfère qu'on donne 1 euro tous les jours que 7 euros le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, vous ne voyez pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est plus dans un style de vie que dans un truc légal. Ça entretient, c'est une mentalité, c'est un style de vie. Bon, après, on ne le fait pas forcément, il n'y a pas de souci. Il y a des choses pratiques. Autre dimension de sacrifice dans l'Ancien Testament, les parfums. Les parfums, il y avait l'autel des parfums. Et bien sûr, on sait que dans la Nouvelle Alliance, les parfums, ce sont les prières des saints qui sont recueillies dans des coupes. Apocalypse 5, verset 8, prière, intercession. Et on peut ajouter l'adoration, je pense, dans cette notion de parfum. On reparlera de cela ce soir. Dans le lieu saint, il y avait aussi, vous rappelez, les pains de proposition. Il y avait l'autel de parfum, il y avait les pains de proposition. En général, la compréhension que l'on a de ces pains de proposition pour la Nouvelle Alliance, c'est la parole de Dieu. Et donc, le sacrifice de la parole de Dieu, pour moi, c'est la méditation de la parole de Dieu. pouvez mettre ce que vous voulez, hein, chacun, là il n'y a pas de texte, de verset qui nous le dit, mais je crois que méditer la parole de Dieu, ça coûte, parce que ça veut dire qu'on prend du temps, et ça veut dire qu'on se creuse un peu les méninges quand même, on cherche, on fait une démarche qui nous coûte. Alors, pour certains, c'est peut-être plus compliqué que pour d'autres, suivant l'approche qu'on a des textes, etc. Mais chacun à sa mesure, trouvons le temps pour la parole de Dieu dans notre vie. Et le dernier, c'est le moins, celui qu'on trouve le moins souvent, mais c'est important de le donner, c'est les sacrifices pour les vœux. Vous voyez que dans la Bible, il y a aussi des ordonnances qui sont données. Si tu veux faire un vœu à l'Éternel, offre tel et tel sacrifice, donc, etc. Donc, une notion d'engagement. Dans la Nouvelle Alliance, bien évidemment, il n'y a pas de sacrifice de vœux, mais il y a des vœux quand même. Il y a des engagements. Et les engagements sont très importants, en fin de compte, dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus en parle en donnant ce principe: que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc là, il est très sérieux, il est très clair là-dessus. Ne faites pas de vœux comme ça, je m'engage légèrement, à la légère. Mais ce qui sort de votre bouche doit correspondre à ce que vous allez réellement faire dans votre engagement. Donc il y a les engagements solennels de la vie, le baptême, le mariage, pour ceux qui se marient, l'établissement dans le ministère, par exemple, les engagements professionnels, toutes sortes d'engagements. Et dans la notion de l'engagement chrétien, il y a une notion de sacrifice envers Dieu. C'est-à-dire que Dieu cherche des gens fidèles à leur engagement. Et quand il trouve des gens fidèles à leur engagement, il peut construire sa maison. Les sacrificateurs sont des gens fidèles à Dieu. C'est du solide, un sacrificateur. On sait que s'il a dit qu'il venait, il vient. Et il vient à l'heure. Ça, c'est pour le Sud-Ouest. Et moi, je me suis engagé à finir à l'heure. Et il est 6h moins 2. Donc je m'arrête là pour ce soir, enfin pour cette fin d'après-midi. Et ce soir, on verra plus la notion de l'adoration, de l'intercession.
Merci Nicolas. On peut applaudir, hein. C'est excellent. C'est excellent et c'est le fruit d'un travail, d'une méditation des Écritures. Pardon ? Il y a une question ? Claire ?
Ce matin, vous avez parlé que
Jésus est toujours homme. Est-ce que vous pourriez étayer rapidement la chose ? Donc la question, c'est, ce matin, on a parlé de Jésus qui était encore homme au ciel, est-ce qu'on peut étayer ça un peu plus?
Donc ça, c'est la notion de la résurrection. Lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité dans son corps, donc c'était bien son corps d'homme, hein, et quand il est monté au ciel, ils l'ont vu monter dans son corps. C'est-à-dire que ce n'est pas son esprit qui est sorti de son corps, c'est bien lui avec son corps qui est monté au ciel. Donc s'il monte au ciel avec son corps, lorsqu'il arrive dans le lieu très saint, il est bien toujours dans son corps. Et comme là, il arrive dans une dimension éternelle et permanente, ça veut dire qu'il est toujours éternellement dans son corps humain. Donc ça ne veut pas dire que Jésus n'est que homme, il est bien sûr pleinement Dieu, mais toujours pleinement homme quand même. Et c'est pour ça qu'il nous introduit avec lui dans la gloire. Le premier-né d'entre les morts. Et nous sommes... nous aussi participants de cette résurrection, et la nouvelle humanité a été initiée par Jésus. Ça vous va?
Voilà, donc on se retrouve ce soir à 20h pour le dernier round. Alors un bon appétit, à tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui restent ici pendant...